Voilà. Donc, nous allons maintenant écouter.
Je vais m'acheter un truc comme ça, c'est génial ça.
Pardon ?
Je vais m'acheter un truc comme ça. Merde. Ah, mon titre. Bonne question. Mais je reprends un titre d'ailleurs qui vient de l'ouvrage que tu as mentionné tout à l'heure de Jacques Rancière, Politique de la littérature, qui a tué Madame Bovary.
Auparavant, je fais une annonce solennelle, c'est l'annonce de la naissance d'une revue Flaubert, et je l'annonce maintenant parce qu'à la fin du séminaire, on est toujours dépressé. Donc une revue Flaubert sur Internet qui va être hébergée par le portail revue.org. Alors elle n'est pas encore en fonctionnement, mais il va y avoir une annonce sur le site de l'ITEM très prochainement et sur Fabula et un appel à contribution. Donc je n'en dis pas plus pour le moment, mais sachez que c'est une revue qui est ouverte aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, aux chercheurs confirmés. Donc si vous êtes débutant dans la recherche, vous pouvez être doctorant, vous pouvez proposer des thèses et cette revue sera probablement. Le premier numéro va exister à l'automne. Voilà. Je passe la parole à Françoise qui va donc nous parler cet ouvrage, Contre enquête sur la mort d'Emma Bovary, qui est paru chez Actes Sud l'année dernière de Philippe Doumerc, et puis qui va commenter Jacques Rancière, le travail de Jacques Rancière.
Oui, je dois dire que je suis extrêmement embarrassée d'avoir à présenter ces quelques propos devant Jacques Rancière. En fait, l'idée de cette séance est venue d'un article que j'avais fait à la sortie donc du livre de Jacques Rancière pour une nouvelle revue, et ça m'est l'occasion d'ailleurs d'en faire la publicité, qui a été fondée par le philosophe François Julien et qui s'appelle l'agenda de la pensée contemporaine. Donc je reprends un peu des éléments qui sont peut-être moins des éléments des réflexions critiques que des commentaires et présentations au fond des propos de Jacques Rancière. Alors, qui a tué donc Madame Bovary? Vous allez voir que je vais en arriver à des considérations qui sont beaucoup plus terre à terre, qui concernent peut-être moins l'art et encore, qui sait. Alors, qui a tué Madame Bovary? Bon, bien sûr, ça peut être une sorte d'énigme à laquelle il n'y a pas de claire réponse. Et là, je fais allusion à ce qui a été dit tout à l'heure, cette sorte de suspension du jugement dans l'esthétique de Flaubert. Petit exergue, malgré tout, que j'emprunte à Gilles Deleuze, il n'y a pas d'autre problème que celui de l'insertion de l'art dans la vie quotidienne. Revenons à la question. Qui a tué Madame Bovary? Alors, vous me direz que la question semble parfaitement incongrue, et c'est ce que dit Jacques Rancière dans l'article auquel je fais ici référence, car aucun lecteur du roman éponyme de Flaubert n'ignore que Madame Bovary s'est donné la mort en s'empoisonnant à l'arsenic. Et je cite Jacques Rancière, « Même ceux qui n'ont jamais lu Madame Bovary savent au moins une chose, personne n'a tué Emma, c'est elle qui s'est suicidée. » Et pourtant, je repose la question, qui a tué Madame Bovary? Les récits des événements on ne peut plus clair sur ce point, et je vous renvoie évidemment au final du roman. S'étant introduite en fraude dans le laboratoire du pharmacien Homais, souvenez-vous, elle alla droit vers la troisième tablette, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et la retira pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à même. Puis, et je cite à nouveau, c'est presque dans la sérénité d'un devoir accompli, je coupe un peu la citation, qu'elle s'assit à son secrétaire et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. Fin de citation. Cette lettre sur laquelle Charles, en plein désarroi, se rue, commence, on s'en souvient, par ces mots qui disculpent tous les personnages de ce drame, à commencer par le mari, qui est toujours le premier suspect dans les affaires criminelles, qu'on accuse personne. Cette lettre, ouverte par Charles en dépit des consignes d'Emma, c'est comme dans les romans policiers, hein, c'est lettre à n'ouvrir qu'après ma mort, évidemment, met un terme à toute velléité d'enquête, du moins si on en croit le roman de Flaubert. Alors, certes, les habitants de Yonville sont tous responsables de cette mort. Qui par cynisme, qui par égoïsme, qui par aveuglement, qui par bêtise, qui par indifférence, qui par jalousie, ou encore mesquinerie provinciale. Mais aucun n'est, à proprement parler, coupable. C'est la faute à personne, ou plutôt c'est la faute de cet enchaînement de raisons dont la raison est impénétrable, la fatalité, comme le dit Charles dans un moment de touchante grandeur. D'ailleurs, c'est la faute à la c'est la fatalité. M'intéresse ici parce que cette espèce de drame bourgeois se voit haussé presque par ce grand mot, hein, nous dira Flaubert, au niveau presque d'une tragédie. Mais pour arriver à cette conclusion, la fatalité, qui, en conformité avec l'esthétique flaubertienne, ne conclut rien, et là je fais allusion effectivement à cette forme particulière de l'esthétique flaubertienne, il aura fallu à Charles, auparavant, renoncer à chercher la cause de tant de malheurs et accepter le désordre de la vie empirique qui, à la différence des fictions bien conduites, des fictions justement bien conduites dans les livres que lisait Emma, n'obéit pas, la vie, à la logique des causes. En d'autres termes, il lui aura fallu entrer dans cette vérité de la vie que la poétique flaubertienne oppose à la vraisemblance de la poétique classique et à sa rationalité causale. Charles, qui après la mort d'Emma accepte de ne pas connaître le sens des conduites humaines et de la signification des événements, Charles qui se laisse envahir par les sensations, et Jacques Rancière développe ce point, et qui s'abandonne à l'état des choses, au fond sans raison, qui ne s'enchaînent pas selon la logique des causes, se montre paradoxalement, ici, plus proche de la poétique de Flaubert que ne l'était son épouse, la lectrice de romans aux intrigues bien ficelées, où les héros ont prise sur ce qui leur arrive et où les actions se combinent et s'enchaînent logiquement. Et je fais allusion, bien sûr, à ce que vous connaissez, les romans de Pacotille, ces romans de brigands et de chevaliers, ces romans d'amour au clair de lune à l'ombre d'un donjon ou dans le doux bercement d'une gondole. Romans, il faut aussi le souligner, où la bonté, après avoir été bien malmenée, est récompensée et où la méchanceté est punie. C'est-à-dire, en fait, des romans dont la conclusion est une conclusion, des romans qui restaurent les valeurs dans leur valeur de valeur, à la différence du roman de Flaubert, Madame Bovary, des romans qui auraient évité à Flaubert le procès, puisque justement l'essentiel du procès porte sur le fait qu'il n'y a pas à l'horizon de ce roman une défense des valeurs morales. Qu'on n'accuse personne. La lettre ne comportait-elle que cette ligne qui disculpe l'entourage sans explication aucune des raisons du geste d'Emma? Ou bien aurait-elle été arrachée à la mourante avant qu'elle ait eu le temps de désigner d'une écriture tremblante le coupable? Toute l'affaire est donc à reprendre, puisque nous ne connaissons de cette lettre que cette première phrase. Et c'est par le truchement du jeune enquêteur de police Rémy, ce que va faire Philippe Doumenc dans l'ouvrage auquel Anne a fait allusion, Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary. Alors, ici, petite parenthèse, il y a une grande vogue aujourd'hui de ces réécritures sous forme de reprise d'une enquête. Je fais allusion, par exemple, à Pierre Bayard, qui reprend l'enquête menée par Hercule Poirot, qui a tué Roger Ackroyd, ou qui reprend l'enquête faite par Sherlock Holmes dans Chien des Baskervilles, et autres textes, ça abonde aujourd'hui. Vous savez que Pierre Bayard donc reprend l'enquête d'Hercule Poirot, alors que tout lecteur d'Agatha Christie sait très bien que l'enquête a été bien menée par Hercule Poirot, qui en conclut à la culpabilité du docteur Shepard, et qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait refaire le travail. D'ailleurs, du même Bayard, vous pouvez lire « Enquête sur Hamlet ». Alors, Philippe Doumenc travaille dans la tradition classique du récit, dont la logique déductive de la fiction policière est la version moderne. À l'opposé de l'esthétique de Flaubert, lequel Flaubert traverse de façon spectrale la contre-enquête policière menée par Rémy, Doumenc pratique un art du récit très classique et d'une positivité bourgeoise conforme à la logique du genre. Autrement dit, que fait-il ? Il rabat le roman de Flaubert sur le fait divers qui aurait été à l'origine du récit de Flaubert. Autrement dit encore, il procède à un travail de déesthétisation du roman de Flaubert. Autrement dit encore, il procède à une sorte d'évaporation de Flaubert qui, comme je vous le disais, n'est plus qu'un pâle témoin de cette histoire provinciale. Rémy, le double enquêteur de Doumenc, ne se satisfait pas du quitus donné au personnage du roman par la lettre d'Emma, pas plus que du grand mot de Charles, c'est la faute à la fatalité. La fatalité, pour lui, ça n'existe pas, car il n'y a pas de causalité vague. Et évidemment, là, il faudrait insister sur la différence avec l'esthétique de Flaubert, ou avec les romans de Flaubert, dont toute l'esthétique élude justement la catégorie causale. Pour Rémy, il y a des causes et des effets. Et dans ce cas précis, les causes s'incarnent dans des personnages qui agissent conformément à leurs intérêts, mus par des mobiles clairs, dont il revient aux policiers de percer le secret. Dans cette réécriture du roman, il reste une chose certaine. Madame Bovary a bien tenté de se donner la mort en avalant de l'arsenic. Et comme dans le récit flaubertien, certains personnages portent plus que d'autres la responsabilité de cette tentative de suicide. En tête de liste des suspects, l'horrible Monsieur Lheureux, qui lui a fait dépenser de fortes sommes et qui est comme la cause prochaine de son geste, mais à en croire la déposition de Monsieur Homais, car ils sont tous convoqués, bien évidemment, à ce geste d'Emma, il y a aussi des causes lointaines qu'il faut chercher chez tous les hommes qui ont traversé sa vie de femme, à commencer par son mari, et je cite Homais, Doumenc le fait parler, incapable de la contenter, auquel il faut ajouter, et c'est toujours Homais qui parle dans le texte, dans le récit policier de Doumenc, les deux autres qui l'ont fait rêver pour pas grand-chose. Reste que si tout cela est indéniable pour le policier qui mène l'enquête dans le respect de cette logique des actions qui fait les bonnes histoires, il y a forcément un coupable et un seul. Et cet assassin, il le trouvera en la personne d'un homme qui a achevé Emma sur son lit de souffrance pour la réduire au silence, le docteur Larivière. Le livre nous découvre alors l'envers de la vie provinciale. Les débauches secrètes, les parties fines auxquelles participent les notables, Ce ne sont là que des clichés sociologiques, des idées reçues, aurait dit Flaubert, mais cet anti-roman flaubertien montre que dans un certain régime d'écriture, la vérité de la fiction peut coïncider avec le vraisemblable. De ce fait, il donne raison à Madame Bovary d'avoir cru aux inventions livresques, car la réalité est même en deçà de la fiction, pour le pire. Et son erreur est là, pour le pire et non pour le meilleur, comme elle l'a cru. Je vous dis, c'est là son erreur de lectrice. Et comme dans les romans policiers classiques, il ne convient pas que le lecteur nourrisse trop de sympathie pour la victime, la figure d'Emma sort quelque peu noircie de la révélation de la vérité. On découvrira effectivement le rôle qu'elle a joué dans les fameuses parties fines organisées par les notables. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, si curieux comme Emma Bovary excite les fantasmes érotiques, que ce soit au cinéma, dans les bandes dessinées ou dans des réécritures du roman. Bien sûr, vous vous en doutez, l'affaire mettant en cause des notables sera étouffée, d'ailleurs comme Madame Bovary, parce que la rivière l'a tuée en lui enfonçant un mouchoir dans la gorge. Donc, l'affaire sera étouffée, et la vérité avec elle. Comme la vie est simple et linéaire dans les romans policiers. La rivière a commis le crime parfait. La dernière dégradation d'Emma sera d'avoir un tombeau qui rivalise en mauvais goût, petit bourgeois, avec la pièce montée de son mariage, je vous lis, la sépulture d'Emma s'orne d'une statue représentant un génie ailé, porteur d'une torche. Suivant les dispositions testamentaires de Charles, Homais lui-même, c'est tout dire, l'a choisi chez le meilleur artiste funéraire de Rouen. Fin de citation. Vous voyez donc que Doumenc ne fait que transposer dans le genre policier ce qui a souvent été fait par la critique flaubertienne, et ça j'y insiste, vous voyez, ce qui a été fait par la critique flaubertienne, une enquête ou une quête des causes. Causes différentes, qui ne s'excluent pas mais qui s'additionnent. Version sociologique, ce sont les Rodolphe, les Léon, les Lheureux, les Vinçard, les Guillaumin, les commères jalouses de Yonville et même... Et surtout Charles, vous voyez ce qu'elle a dit de lui, hein, au moment de sa mort, Charles qui n'aurait pas assez de millions à m'offrir pour que je lui pardonne de m'avoir connu. Donc ce sont tous, et surtout Charles, qui l'ont tué. On pourrait dire qu'on a presque affaire à un crime qui ressemblerait à celui de l'Orient Express, vous savez, où tous les personnages sont coupables et pas seulement responsables, sauf que là il s'agit de coups de couteau symboliques. Alors, la critique flaubertienne s'est souvent livrée, hein, comme le fait, mais dans un genre policier, Doumenc, donc des causes sociologiques, des causes sentimentales, ce sont ses rêves d'amour déçus qui l'ont tué. D'ailleurs, à la toute fin du roman, bon, où elle va, elle cherche désespérément de l'argent, juste avant qu'elle ne avale l'arsenic, Flaubert écrit, elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent, elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir. Morte donc d'amour comme une héroïne romantique. Cause psychologique, c'est la confusion, je reprends toutes les causes qui ont été léguée par la critique, c'est la confusion entre la littérature et la vie qui l'a tué. Cause politique, c'est son désir de s'élever au-dessus de sa condition qui l'a tué. Cause médicalo-scientifique, c'est la bêtise des médecins, assassins malgré eux. Souvenez-vous de ce que dit La Rivière quand il arrive trop tard au chevet de Madame Bovary dans le roman de Flaubert et non pas dans le roman de Doumenc. Constatant l'inefficacité des traitements que lui ont fait subir les autres médecins, pharmaciens, il aurait mieux fallu lui introduire vos doigts dans la gorge. Tout cela sont évidemment des explications décevantes et il faut reprendre l'enquête à nouveau frais. Qui a tué Madame Bovary ? Telle est la question de la contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary à laquelle le roman policier de Philippe Doumenc, conformément au pacte de lecture du genre, répond. Mais la question que pose d'entrée de jeu, et c'est ce qui m'avait intéressé dans cet article, Jacques Rancière, qui sait, lui, que personne n'a tué Emma, est bien différente. Elle se transforme en pourquoi fallait-il tuer Madame Bovary? Autrement dit, et c'est à cela que je voulais en venir, pourquoi fallait-il qu'elle se suicide? La question est ici celle de la nécessité de cette fin, et elle fait écho à la réponse laconique d'Emma qui, à Charles, fou de douleur et d'incompréhension, lui demande la raison de son geste. Vous vous souvenez qu'elle se contente de dire « Il le fallait, mon ami, il le fallait ». Au nom de quelle nécessité? Au nom d'une nécessité fictionnelle qui nous renvoie à l'intrication des causes qui conduisent au suicide et qui constituent l'intrigue même du roman? Peu sûr. Au nom d'une nécessité sociale qui sous-tend la nécessité fictionnelle et se confond avec elle, Madame Bovary, tout comme Julien Sorel, doit-elle mourir pour avoir, par ses rêves d'élévation au-dessus de sa condition, contribué au grand désordre démocratique qui est considéré à l'époque comme l'incarnation du mal social? Ce serait plausible si, toujours comme Julien Sorel, elle était condamnée à mort par un jury de bourgeois épris d'ordre et terrorisée par ce que Zola appellera la grande poussée des appétits. Vous savez que chez Zola, dans tous les Rougon-Macquart, la grande poussée des appétits, c'est la métaphore par laquelle il désigne justement la démocratie. Mais ce n'est pas un jury populaire qui condamne Madame Bovary, c'est Flaubert, et lui seul, qui décide de sa mise à mort, et d'une mort terrible. Là, je vous renvoie à son agonie. Et il est difficile de voir Flaubert en bras justicié au service de l'ordre social et moral. De quoi s'est-elle donc rendue coupable à ses yeux pour qu'il lui inflige une fin aussi cruelle que celle de l'empoisonnement à l'arsenic, dont il décrit avec une minutie presque sadique les phases? Et c'est là qu'intervient le philosophe enquêteur. Ce « il le fallait » qui fait de Flaubert un meurtrier suppose donc que celui-ci, qui n'a avec Emma pas d'autres rapports que des rapports d'écriture, obéit à une nécessité qui est une nécessité qui vient de l'écriture, à une nécessité d'artiste, par opposition à tous les mobiles triviaux des différents personnages du roman, qui, comme l'enquête de Douminck le révèle, ont tous le leur. Quelle est donc cette nécessité? Cette nécessité serait la défense d'une valeur supérieure, une valeur supérieure pour Flaubert à tout autre, l'art. L'art qu'il faut protéger contre son antonyme, l'art industriel, ou contre son autre antonyme, moins immédiatement repérable, mais sans doute encore plus nocif, le sentimentalisme du beau. Et là, il faudrait insister, je n'en ai pas le temps, sur les dangers du rapport sentimental, il vient d'en être fait mention à l'instant, sur les dangers du rapport sentimental à l'art par la confusion que ce rapport sentimental à l'art entretient avec l'émotion esthétique et l'aspiration à l'absolu. Reprenons donc la question. De quoi Madame Bovary s'était, en d'autres termes, reprenons-la, je dirais, dans d'autres termes, de quoi Madame Bovary s'est-elle rendue coupable? L'idée communément reçue, c'est d'avoir été une mauvaise lectrice de mauvais livres. Alors, première sous-question, qu'est-ce que des mauvais livres pour Flaubert? Des livres qui, à l'inverse de Madame Bovary, ne relèvent pas de la nouvelle esthétique du banal que Flaubert est en train d'inventer. En fait, il est à peu près certain qu'elle ne lirait pas un livre dont une fille de fermier aurait épousé un officier de santé. Elle ne lirait pas le livre dont elle est l'héroïne. Emma ne lirait pas Madame Bovary. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour la condamner à mort. Mauvaise lectrice. L'idée tout aussi communément reçue est que le plus grand tort d'Emma Bovary est d'avoir confondu la littérature avec la vie, et donc d'avoir cherché à vivre sa vie comme on la vit dans les mauvais romans qu'elle a lus. Mais c'est une explication qui ne tient pas compte du fait que si Emma est bien dotée d'un tempérament exalté, elle n'en jouit pas moins, et Flaubert y insiste à de nombreuses reprises, d'un esprit positif qui la retiendrait de donner dans une telle folie si jamais ses rêves l'y invitaient. Ce qui d'ailleurs n'est absolument pas le cas. Je vous dis, il y a de très nombreux exemples de son esprit positif et petit bourgeois. À la différence de saint Antoine, qui amène l'hallucination sur le plan réel et qui en vient à faire de ses rêveries la vie, jamais Emma ne confond ses rêves avec la réalité. Certes, elle voudrait bien faire entrer du rêve dans la vie, c'est complètement différent. Et faire entrer du rêve dans la vie, peut-on l'en blâmer ? Je parle ici de rêve et non d'art. Par exemple, se marier à minuit au flambeau, manière de faire entrer du rêve dans la vie. Est-ce blâmable ? Il y a aujourd'hui toutes sortes d'organisateurs de mariage qui vous proposent des choses de ce genre et, je dirais, d'autres bien plus étonnantes. Est-il blâmable de vouloir ainsi, finalement, à peu de frais, se donner des frissons de plaisir ? Voilà pourquoi je plaiderais en faveur d'une défense d'Emma. Sans compter, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que ses rêves de volupté n'ont rien que de très convenu, car Emma est, malgré tout, une petite bourgeoise très conventionnelle. Antoine, à la différence d'Emma, incarnerait l'image de l'artiste, non parce que l'art est une religion, quoique, mais parce que la religion est un phénomène, pour Flaubert, de nature artistique. Antoine ne cherche pas à agrémenter sa vie, comme Madame Bovary, à l'esthétiser. Il cherche à la sacrifier au profit d'une vie intérieure plus riche. Alors que Madame Bovary rapetisse l'infini de l'expérience quasi mystique de l'art en la liant aux objets, comme si elle mettait le génie de l'art dans une bouteille, saint Antoine, qu'elle pourrait mettre sur un de ces meubles comme les petits bateaux qu'on fait entrer dans la bouteille et qui servent, n'est-ce pas, de bibelots décoratifs, saint Antoine s'élève de la finitude des réalités visibles vers l'invisible de la et la jouissance de l'absolu. Mais, justement, elle ne fait pas du tout ça. Elle en reste à un plan d'immanence. Elle enjolive la vie, et c'est tout. Elle, dans une perspective, au fond, que l'on dirait aujourd'hui, de jouissance ou d'hédonisme. Donc, je reviens à ma défense. Le tort d'Emma, si on y songe bien, n'est pas d'avoir lu de mauvais livres qui, idéalisant l'amour, ne l'ont pas préparé aux réalités du mariage. Non, c'est d'avoir voulu vivre une vraie histoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vraie histoire ? C'est-à-dire une histoire qui ressemble à celle qu'on raconte dans les livres. Et ce n'est pas une affaire d'importance des événements ou des faits, c'est une affaire d'agencement de ces mêmes événements et de ces mêmes faits. Une vraie histoire pour elle, c'est une histoire qui s'annonce comme une histoire nette, claire, dont on sait à chaque instant qu'elle est bien une histoire. Souvenez-vous, après son mariage, elle se dit, au fond c'était ça, il n'y a pas eu comme les trompettes qui vous disent, ah, voilà, c'est le mariage. Ou après avoir embrassé Rodolphe, elles se sont au fond très déçues, parce que rien n'a dit, voilà, j'ai un amant, c'est ça. Donc, c'est une histoire qui s'annonce comme une histoire nette, claire, dont on sait à chaque instant qu'elle est bien une histoire qui comporte sa signification en elle-même, une histoire, en somme, semblable à celle auquel croyait Roquentin avant de découvrir qu'il s'est menti pendant 10 ans, car justement, je vous renvoie au texte de Sartre, les histoires sont dans les livres. Je cite Sartre, « Naturellement, tout ce qu'on raconte dans les livres peut arriver pour de vrai, finit par comprendre le héros de la nausée, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. » C'est-à-dire à cette manière d'arriver, c'est-à-dire à la manière dont ça arrive dans les livres. Or, nous dit Roquentin, c'est à cette manière d'arriver que je tenais si fort. Eh bien, je dirais que c'est à cette manière d'arriver qu'Emma, elle aussi, tient si fort. Et c'est la raison pour laquelle elle essaie de plier le cours de la vie ordinaire à cette manière d'arriver des choses qui est propre au récit. Et vous voyez bien que c'est tout à fait différent de cette confusion de registres entre les imaginations romanesques et la vraie vie dont on l'accuse un peu légèrement. Et ces événements, évidemment, n'ont rien à voir avec les événements purs, hein, ces événements, ces micro-événements de l'esthétique flaubertienne dont on parlait à l'instant. C'est pour ça que j'adhère tout à fait à ce que dit dans l'article qui m'a fortement intéressé Jacques Rancière, savoir que Emma ne confond nullement la littérature avec la vie réelle. Rien à voir avec Don Quichotte. Elle connaît trop, par exemple, les réalités de la campagne pour se laisser abuser par les épanchements bucoliques des romantiques. Non. Ce qu'elle veut, c'est que les événements de la vie empirique se signalent avec la même netteté que dans les fictions et atteignent un même degré d'intensité. Ce qui signifie que lorsque l'on vient de prendre un amant, cela fasse haut relief sur le fond terne de l'existence. Et la cruauté de Flaubert, qui décidément veut à son héroïne de s'être trompé de régime d'écriture, c'est d'avoir fait de son suicide le seul événement qui corresponde à l'idée que celle-ci s'était faite d'un événement. Elle fait bien la différence entre la littérature et la vie, mais la littérature lui paraît d'une essence supérieure. La différence avec Flaubert et avec Proust, qui tous deux pensent aussi que la vraie vie est dans la littérature, c'est qu'elle croit que cette supériorité tient à ce qui est raconté et non à une manière différente de sentir. Toujours aversée au dossier de la défense, au fond, à sa manière, elle cherche dans les livres une forme de nécessité qui fasse pièce à la contingence du réel. Et elle me semble assez proche d'une autre héroïne, de l'héroïne de la nausée, Annie. Annie qui est à la quête des moments parfaits. Ces moments parfaits, représentés sur les gravures des romans historiques qu'elle dévore, et que Madame Bovary, avant elle, aura lu au couvent. Évidemment, ces romans historiques sont d'une mièvreté affligeante. Voir un exemple que j'aime tout particulièrement, et voilà ce que ça lui inspire comme moment parfait, à partir des gravures de ses romans. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, passaient leur jour, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Bien sûr que c'est mièvre, bien sûr que ça nous fait sourire, mais il y a là, je dirais, une sorte de devoir-être des choses qui luttent contre l'informe de ce qui se passe dans la vie. Les choses y sont comme elles doivent être. Autrement dit, ces moments-là, que l'on ne trouve que sur les gravures ou dans une certaine littérature, donne forme à des instants et les arrache au contingent, les arrache à l'absence de nécessité de la vie, les arrache au sans pourquoi. Il y a là une volonté, effectivement, de justifier par cet arrachement à la contingence, par cette espèce de mise en forme qui tient lieu de nécessité, d'instant autrement dépourvu de toute justification. Évidemment, ça va à l'encontre de Flaubert et de ses micro-événements, très proches d'ailleurs de ceux qui exaltent Saint-Antoine. Qui a donc tué Emma Bovary? Serait-ce Saint Flaubert, dont vient de nous parler au fond Jacques Rancière, que je trouve un peu trop proustien à mon goût, serait-ce lui qui aurait prononcé la sentence de mort et veillé à son exécution? Emma serait-elle morte non d'avoir lu trop de livres, mais d'avoir une poétique de retard? Serait-elle morte de n'avoir rien compris à ce nouveau régime d'écriture qui depuis Flaubert s'appelle la littérature, ou plutôt aurait-elle été tuée pour sauver l'idée que Flaubert se fait de l'art? Revenons en guise de conclusion. De quoi Madame Bovary s'est-elle rendue coupable? D'avoir péché contre la littérature et l'art? En quoi? Tout l'article de Jacques Rancière est une réponse à plusieurs tiroirs à cette interrogation capitale. Je le cite, ce qui définit son personnage, c'est le refus de séparer deux sortes de jouissances, la jouissance matérielle des biens et des plaisirs matériels et la jouissance spirituelle de la littérature, de l'art et des grands idéaux. Fin de citation. En cela, elle est l'incarnation d'une bourgeoisie qui aspire aux biens immatériels, mais ne sait en jouir que sous la forme de biens matériels à acquérir. Aussi, comme le fait Emma à une moindre échelle, cette bourgeoisie transforme-t-elle son intérieur en un bric-à-brac d'objets censés être les vecteurs de l'émotion esthétique et les signes d'un raffinement aristocratique. D'où son principal péché, qui serait de faire entrer l'art dans l'ordinaire de la vie comme décor et comme vecteur d'émotions soi-disant esthétiques, mais qui ne sont jamais que des émotions mesquines. Alors que pour Flaubert, l'art est supérieur à la vie, il est la vie authentique. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Jacques Rancière voit dans cette confusion des ordres de jouissance, au fond, la marque de l'effrayante équivalence démocratique. Et c'est la question que je lui posais il y a un instant.
Je ne suis pas effrayé, moi.
Non, non, mais c'est Flaubert qui l'est.
D'accord.
C'est Flaubert qui l'est. Je ne lirai pas les choses, je crois, exactement ainsi. J'y vois plutôt l'impossible arrachement à un utilitarisme qui ne comprend le plaisir que dans la possession concrète des objets transitionnels. Possession toujours déceptive, puisqu'elle se trompe d'objectif. L'esprit positif de Madame Bovary ne peut se satisfaire longtemps de jouissances sans contenu. Car si elle est exaltée par tempérament, elle est, comme le dit Flaubert, et tout à l'heure tu as repris la citation, elle est aussi très peu mystique. Et ses extases ont besoin de s'accrocher à des objets. Il lui faut du concret. C'est une des raisons aussi pour lesquelles elle ne cesse de s'employer à incarner dans les choses matérielles, comme des pièces d'ameublement, des bibelots décoratifs ou des colifichets, ces fameux mots de félicité, de passion et d'ivresse. Vous avez reconnu la situation de qui lui avait paru si beau dans les livres. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle croit que les mots doivent coller aux choses, mais qu'elle pense que les choses ont le pouvoir de remplir la promesse de bonheur des mots. Plus tard, certains héros de Georges Perec s'y tromperont comme elle, et ils connaîtront le même désenchantement. Elle croit que l'élévation d'âme qu'elle ressent, émotion esthétique, lorsqu'elle se trouve dans la chapelle de son couvent, vient d'une qualité que possèdent les objets, d'où le désir de les acquérir, eux ou leurs semblables. Mais regardez, est-ce qu'on ne voit pas la même chose aujourd'hui dans certaines scènes séries américaines télévisuelle, où il n'y a pas de scène amoureuse sans bougies disposées autour de la baignoire. Eh bien, oui, transposer le cierge, n'est-ce pas, de la chapelle, ça va effectivement exciter l'émotion, et il y a une espèce de confusion des deux types d'émotions. D'ailleurs, le problème du prie-Dieu l'incarnerait suffisamment, mais s'y mêle quelque chose d'autre, à quoi je vais revenir, qui est la question du luxe. À propos du prie-Dieu, on retrouverait ce même goût petit bourgeois du gothique dans l'intérieur d'Émile Zola. Au fond, elle croit que l'objet contient l'infini de l'émotion spirituelle dans son fini d'objets d'art, il faudrait plutôt dire d'artisanat. Elle croit au fond que c'est là que l'émotion esthétique se trouve. Madame Bovary est donc prise dans un système d'imitation de l'expérience esthétique où toutes les composantes se trouvent renversées en leur contraire. L'infini en fini, l'infini de l'art dans le fini du prie-Dieu, le spirituel dans le matériel, pour prendre l'exemple du prie-Dieu, l'absolu dans le positif. D'où un rapetissement au lieu d'un agrandissement, d'où bien sûr la déception. Elle a un besoin positif Oui, fut un temps où l'on aurait dit qu'Emma méritait son châtiment, non pour avoir confondu le mot et la chose, mais pour n'avoir pas compris que l'appel poétique des mots n'a rien à voir avec celui des choses. En fait, son tort vient de ce besoin positif de référentialisation des grands mots vides, si beaux dans les livres, attitude en fait quasi paysanne, attitude de qui ne s'en laisse malgré tout pas compter. Contrairement à une vulgate critique, fort peu critique, ce n'est pas de son exaltation ni de ses aspirations folles qu'Emma est victime, mais bien plutôt de son trop de positivité que Flaubert lui fait chèrement payer parce qu'il y voit une source de malentendus pour la littérature qu'il est en train d'inventer. Car si l'on y songe, qu'a voulu faire Emma Bovary qui soit si blâmable? Elle n'a pas voulu, comme on le prétend un peu trop rapidement, faire de sa vie une œuvre d'art en la rendant conforme à ce qu'elle a pu lire dans les livres. Elle a voulu faire entrer un peu d'art dans sa vie. Et cette envie porte un nom, la banalisation d'esthétique. Et c'est à quoi s'emploient tous les marchands de bibeloterie, d'antiquaillerie ou d'art industriel de l'époque. Pensez à la maison artiste des Goncourt, maison d'artiste, à la demeure de Montesquieu, maison d'artiste des Goncourt que fréquente Flaubert, à la demeure de Montesquieu, à l'intérieur de Dorian Gray, la liste serait longue. Donc, toute une esthétique raffinée qui ressemble aux boutiques d'antiquité ou aux ventes aux enchères, toute, je dirais, un besoin d'arrangement décoratif, son tort est peut-être d'aller regarder, chercher dans la haute littérature, évidemment, de quoi procéder à cet arrangement décoratif. En fait, peut-être que son tort viendrait de cette volonté d'appropriation, mais là on y retrouverait l'économie petite bourgeoise, d'appropriation à moindre frais intellectuel de la plus-value spirituelle. C'est en cela, évidemment, que se trouve le véritable mal qu'elle inflige à l'art. Il faut donc la punir de ce mal fait à l'art. Ce mal auquel Bror, Benjamin, Adorno ont donné le nom de kitsch. Car le kitsch, ce n'est pas une manière ou un style. Le kitsch, c'est un mode de consommation. Et c'est ce mode qui fait de l'œuvre d'art un produit culturel dégradé, un objet kitsch. Ce mode consommatoire, où la sentimentalité prime l'esthétique, quand ce n'est pas le snobisme, ce qui n'est pas vraiment le cas pour Emma Bovary, serait-ce le cas si Emma Bovary s'était trouvée à Paris. Le snobisme, c'est-à-dire la consommation d'objets en perspective de l'être pour autrui, de l'art dans une perspective de l'être pour autrui de l'art, c'est-à-dire ce que j'appelle moi aujourd'hui, on en voit de nombreux exemples, de l'art consommé comme savonnette à vilain, c'est-à-dire comme art pour se laver de sa roture et accéder évidemment au prestige des classes les plus élevées. En fait, cela, c'est pour Bror le mal dans le système des valeurs de l'art. Et c'est là le véritable mal qu'elle inflige à l'art. Et on comprend pourquoi Flaubert insiste si souvent sur le fait qu'elle était plus sentimentale qu'artiste. Il y a aussi chez elle cette idée très petite bourgeoise du profit, cette économie petite bourgeoise. Il faut tirer de l'art du profit social ou personnel. Et on retrouve évidemment cet utilitarisme bourgeois qui s'oppose à la définition évidemment de l'art comme finalité sans fin. Et c'est à cause de cela qu'elle fait, ou elle procède, ou elle participe de la régression d'époque, de la régression de l'art au fétichisme de la marchandise. Reste un point, je le laisserai pour la discussion, et qu'il faudrait là aussi verser au dossier de la défense d'Emma. Le problème du luxe, le problème du raffinement, auquel la critique du kitsch ne répond pas vraiment, sauf sous la forme, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, du mode consommatoire du beau, d'une critique du mode consommatoire du beau. Ce luxe qui peut aussi se penser comme une volonté d'amélioration du cadre de vie. Cette volonté non blâmable de s'entourer de beaux objets. Jusque, d'ailleurs, dans le rapport à la mode, c'est-à-dire à, au nouveau, à la religion du nouveau, dont nous parlera Baudelaire, et que ne critiquera pas Baudelaire. Alors, je conclus. Certes, il fallait tuer Madame Bovary, parce que Madame Bovary a abaissé l'art en le faisant entrer dans sa vie prosaïque. Flaubert, lui, veut élever à la hauteur et à la puissance de l'art la vie ordinaire, la vie d'une fille de gros fermier, normand, qui, pour sortir de sa ferme, va épouser ce médiocre officier de santé qu'est Charles Bovary. Cette envie, elle a aussi un nom. Ça s'appelle l'esthétisation du banal. Ce à quoi procède Flaubert. Mais entre Emma Bovary, l'esthétisation du banal. Non, pardon, excusez-moi. La banalisation de l'esthétique. Mais entre la banalisation de l'esthétique et ce à quoi procède Flaubert, à savoir l'esthétisation du banal, eh bien, s'écrit toute l'histoire de la modernité. La différence, c'est que entre esthétiser le banal, c'est respecter l'art en le mettant là où il doit être, dans les livres et dans les œuvres, tandis que banaliser l'esthétique, comme le fait Emma Bovary, c'est prostituer l'art en le confondant avec sa forme dégradée, le kitsch. Et l'on sait avec quelle ironie douloureuse, car impuissante, Flaubert assiste au phénomène de kitschéisation de l'art qui s'amplifie sous le Second Empire. Le kitsch, c'est le désir, naïf mais intéressé, car on en attend toujours, comme Madame Bovary, un retour sur investissement, retour sur investissement sentimental, dans le cas de Madame Bovary, ou social, dans le cas du snobisme, dans une société bourgeoise et industrielle comme celle du XIXe siècle. Ça nous renverrait au problème de l'utilitarisme. Pourquoi fallait-il tuer Madame Bovary? Parce qu'en se trompant d'envie, elle représentait une menace pour la littérature et pour l'art. Qui a tué Madame Bovary? Sans aucun doute Flaubert, c'est le seul qui avait un vrai mobile, le salut de l'art, et je vous renvoie à l'article de Jacques Rancière. Il s'agit là d'un crime parfait. L'auteur, sous le masque du narrateur, a commis un crime qui échappe à toute poursuite judiciaire, puisqu'il s'agit d'un suicide. Mais Flaubert ne pouvait tuer, avec Emma, toutes les Bovary contemporaines ou à venir, et il a laissé ce soin à Proust, lequel a préféré user de l'ironie plutôt que du poison, car il est fort à parier qu'à Paris, dans un tout autre milieu social et culturel, et disposant d'autres moyens financiers, Emma fut devenue une Madame Verdurin, le type même de la fausse artiste, qui n'est qu'un parasite doublé d'une profiteuse de l'art, en quoi elle voit un instrument de promotion sociale symbolique. Ce changement de statut de l'art qui, de fin, devient moyen, ne fait que confirmer l'instrumentalisation et l'utilitarisme de l'époque démocratique et bourgeoise.
Merci beaucoup pour ce parcours. Et à l'appui de ce que tu disais sur le kitsch, il y a une notation dans les brouillons, dans les scénarios de Bouvard qui dit « montrer que la curiosité est la haine de l'art ». Ça va tout à fait dans cette perspective. Avant de donner la parole à la salle, pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Pierre Bayard, je voulais quand même préciser que Pierre Bayard n'est pas simplement un romancier.
C'est un psychanalyste, critique littéraire.
Il enseigne à Paris littérature et psychanalyse. Et il a, on peut dire, inventé le genre de la critique policière à partir d'une lecture psychanalytique des œuvres. Et je vais ajouter aussi que Pierre Bayard fait ses livres un peu comme une lecture, une réflexion sur la lecture paranoïaque, et toujours au second degré. Et il se plaint que souvent on l'a pris au premier degré. D'ailleurs, ça a fait une grande partie du succès de son livre « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ?» parce que les gens s'y sont précipités comme si c'était un manuel de lecture. Et c'est tout à fait savoureux, mais il y a aussi une réflexion, et une réflexion au second degré, évidemment, ou au troisième degré, si on veut être encore plus... Voilà. C'est juste une parenthèse pour contrebalancer la présentation un peu...
Non, parce que je ne parlais que de ce...
Oui, bien sûr, mais... Alors maintenant, la parole est... bien sûr à ça, sur ce exposé tout à fait brillant et qui suscite. Gisèle Sévergie.
Deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le besoin de fiction, le désir de fiction d'Emma, qui est en effet frustré dans le roman. Et ce qui fait sa différence, en effet, c'est bien que de son côté, elle a un désir d'histoire qui tienne, un désir d'événement, alors que l'artiste, lui, est capable de trouver l'infime dans l'infini. Plutôt l'infini dans l'infini. Toutefois, dans le texte de Flaubert, les choses se passent en deux temps. Dans un premier temps, Emma a le sentiment de tenir sa fiction. Après la baisade avec Rodolphe, elle a le sentiment qu'il y a événement. J'ai un amant. Et c'est dans un second temps seulement que la fiction se déconstruit et qu'elle est bien obligée de se rendre compte qu'il ne peut pas y avoir une fiction avec des événements qui se tiennent de manière cohérente. Donc je crois qu'il y a deux temps. Deuxième chose, pour le plaidoyer d'Emma, je crois qu'il faudrait rappeler que Flaubert lui attribue l'un de ses propres rêves. Dans sa correspondance, on le voit rêver de festin au flambeau, comme dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a du côté de Flaubert aussi, dans la correspondance, un désir de temps fort, un désir d'événement, mais bien sûr, il sait que ce n'est plus possible au XIXe siècle, d'où cette recherche de l'infini dans l'infini.
Alors, tu as tout à fait raison et je te remercie, je reprendrai peut-être les choses à l'inverse. Si elle est obligée de se dire « j'ai un amant », c'est parce que justement, au moment où elle a un amant, rien ne vient signaler qu'elle a un amant. Quand on allait autrefois, du temps de Villard, au théâtre, Chaillot, il y avait quelque chose de très important, c'était les trompettes de Jarre. Et ces trompettes vous disaient, allez, on entre dans le théâtre. Alors là, on savait que quelque chose, n'est-ce pas, allait se passer. Or, il n'y a rien. Il n'y a rien qui lui dise ça. Donc elle est obligée de se le dire, de se le répéter, j'ai un amant, de regarder dans la glace si quelque chose a changé. Alors, en fait, rien n'a changé autour d'elle, parce qu'elle n'est pas artiste. Peut-être qu'elle aurait pu, à ce moment-là, transposer sur quelques gouttes d'eau, sur quelques brins d'herbe, sur une qualité de l'atmosphère qu'elle aurait vue autrement. Mais non, elle voit que les arbres sont les mêmes, l'herbe est toujours la même, les chevaux sont, etc. Rien n'a changé. Et donc, je crois que c'est cela qui est le véritable problème. Elle voudrait que quand il y a un événement, ça fasse événement. C'est pour ça que je rapprochais ça du Roquentin de la nausée. Parce que le passage est tout à fait intéressant sur le récit. C'est au moment où l'autodidacte va lui demander s'il a eu des aventures, et alors il commence à se dire ce que j'ai eu des aventures. Et il se rend compte qu'il n'a des aventures que quand il commence à les mettre en récit, parce que dans un récit, effectivement, ça commence. On entre dans l'aventure, il y a une aventure. Mais sinon, c'est le fil de la vie, etc. Donc je crois que ce qu'elle voudrait, c'est cela même, c'est que ça découpe sur la monotonie de la vie, ou sur l'ordinaire de la vie, pas nécessairement quelque chose qui soit en même temps non seulement quelque chose qui est une forme, qui arrache à l'informe de la forme, qui arrache au non-sens du sens, qui arrache au contingent de la nécessité, qui arrache à la signifiant, oui, une espèce de sens, et que ce soit donc d'une qualité particulière. Et quand on se moque d'elle parce qu'elle voudrait qu'il y ait tel ou tel objet, ben comme les flambeaux de Flaubert, enfin se refaire des dîners romains, eh bien parce que cette mise en scène constituerait ce que Annie, je ne peux pas le dire mieux que Sartre ne le dit dans la nausée, ce que Annie appelle des moments parfaits. Hein? Or justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas ces... Mais peut-on la blâmer de vouloir qu'il y ait des moments parfaits, sauf à se dire, et c'est à un autre niveau, que cette envie-là a une esthétique de retard.
Simplement, quand même, au moment de la mésade, il me semble qu'il y a une transformation de la nature, et malgré tout une exaltation d'Emma, même si en effet ce « j'ai un amant » peut paraître ambigu. Exaltation, ou est-ce qu'elle essaie de se convaincre? Avec la mésade, d'ailleurs, on ne la voit pas. Ça, dans la... Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là dans la nature.
Oui, mais est-ce que ça n'est pas...
Événement, et ce qui me paraît intéressant, c'est que dans un second temps, elle est bien obligée, avec du recul, quelques mois après, de se rendre compte que non.
Non, je suis d'accord avec toi. On ne le voit pas, puisque ça passe, c'est un autre mode énonciatif. C'est un petit peu un mode de transposition comme celui de la forêt de Fontainebleau lorsque Frédéric et Rosanette s'y trouvent. Mais à ce moment-là, on ne sait plus qui énonce là. On n'est pas du tout sûr que c'est elle qui voit. Hein. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle voit ce changement. On a une espèce de glissement qui s'opère, mais qui est la voix presque du narrateur.
D'autres questions? Remarques? Non? Peut-être un peu tard, les estomacs ont faim. Pierre-Marc.
Mais juste un détail, dans la constitution de la, du scénario policier de la mort d'Emma, il y a un passage que tu n'as pas évoqué, qui avait fait beaucoup rêver Pierre Desmaillet, qui est ce passage de la visite à Binet, où stratégiquement dans le texte quelque chose de bizarre a lieu, puisque on assiste à la scène par une lucarne.
Et il y a les commères qui disent à quel point c'est une femme.
Et on n'entend pas, on n'a pas la bande-son parce que c'est trop loin. Et on voit donc une sorte de scénario muet, très étrange, avec entre Binet, dont on sait quand même que le tour, au flanc, et la constante présence de Flaubert et du style dans l'écriture, Binet, comme dans un film muet, se rapprocher, puis s'écarter avec épouvante d'Emma, et on entend, enfin, on croit, elle croit, distinguer les commères, qu'il dit, mais vous n'y songez pas, ça serait les assises.
Alors, non, il n'est pas si, non, c'est pas si fort.
Non, non, mais, il dit, vous n'y songez pas.
Vous n'y songez pas. Et dans les brouillons, il y a écrit, voilà, c'est ça. Donc, au sens un petit peu plus développé, vous n'y songez pas, ça serait les assises. Et alors, Dumaillet va jusqu'au bout de son hypothèse, selon laquelle Binet est le narrateur, ou une espèce de mécanique qui soutient le narrateur, il pense qu'Emma est venue comme personnage de roman lui demander la mort, d'en finir. Enfin, voilà. Comment vous voyez, l'un et l'autre d'ailleurs.
Bon, d'abord je te réponds, puis après tu vas arriver. D'abord, il y a, bon, dans l'édition telle qu'elle est, les assises ont disparu. Alors, il y a deux choses. Ce que tu dis, d'abord, le personnage est très intéressant parce que Binet fabrique patiemment, longuement, etc., des objets inutiles. Là, la question de l'inutilité. Oui, mais surtout. Oui, oui, des sphères dans la sphère. Mais surtout, c'est moins le fait qu'il soit intrinsèquement kitsch, que le fait qu'il soit inutile qui est ici intéressant si on veut le comparer comme tu viens de le faire, enfin trouver qu'il y avait un rapport à Flaubert, cette espèce d'inutilité. Et donc les commères ont une interprétation évidemment malveillante, elles pensent qu'elle est venue s'offrir, etc., que de toute façon il faut qu'elle soit descendue bien bas, etc., bon, pour en arriver là. Mais il y a effectivement une énigme, ou bien on peut aller dans le sens de l'interprétation des commères, mais on ne voit pas pourquoi Binet, parce qu'il n'aurait pas beaucoup d'argent à lui offrir.
Il a l'argent, justement. Il a l'argent.
Si, il a l'argent.
Il a l'argent de l'État.
Il a l'argent de l'État. Mais, il est percepteur. Il pouvait.
Non, non, c'est sa dette. Ce qu'elle vient lui demander, je pense logiquement, c'est de puiser dans la caisse pour l'aider. Pour l'aider.
Je pense. Dettes, moi aussi.
C'est le plus simple.
Moyennant, peut-être, ce que, en lui offrant peut-être ce qu'elle a refusé à Guillaume.
pas sûr, non, je pense pas, non, pas sûr.
Façon, c'est pas ce que les commères pensent.
Ce qui est sûr, c'est que, bon, précisément, Flaubert ne peut pas écrire l'épisode.
Voilà.
Directement.
Il ne peut pas, oui.
C'est pratiquement, je crois que c'est un impasse dans toute l'œuvre de Flaubert, que cette chose, comme ça, vue à travers le regard d'un autre, quoi.
C'est-à-dire, on ne peut pas même passer...
On ne peut pas le voir, oui.
Passer à la trappe, l'hypothèse que Binet est une présence symbolique du narrateur ou de...
Enfin, de l'artiste plutôt que du narrateur, enfin, de l'artiste comme artiste, parce que...
Oui, enfin, la bande-son de Madame Bovary a tout un tas de qualités sonores, mais il y a un fond qui est toujours ce frombissement de l'atelier de Pinet qui en permanence laisse entendre quelque chose comme la machinerie, quoi.
Oui, et puis il y a même plus directement la référence avec le style rêvé, etc., avec les aigrettes de feu, etc. Et c'est clair que Binet est à la fois deux choses. Enfin, je dirais que d'une certaine façon, Binet, il est à la fois, disons, le faux artiste. Enfin, non, moi je pensais ça aussi par rapport à Whitman, c'est-à-dire effectivement par rapport à la célébration du charpentier, etc., avec sa varlope, etc., du style charpentier, etc., et que, effectivement, Binet est l'artisan amateur, quoi. Il est l'artisan amateur. Celui qui fait des objets inutiles, donc c'est celui qui à la fois en quelque sorte tourne en dérision les artisans, etc., célébrés par l'époque, etc. Bon, ça consonne avec le fait quand même que malgré tout l'horrible usurier s'appelle Vinçard, et que Vinçard est quand même un chansonnier ouvrier célèbre de l'époque, etc. Enfin, je veux dire que bon, il y a. Mais enfin, donc d'un côté, je dirais, Binet est en quelque sorte un peu comme l'artisan liquidé, si on peut dire, et en même temps, une espèce de évidemment, la figure de l'artiste.
Il n'a rien à vendre. Il n'a rien à vendre.
Il fait de l'inutile. Voilà. Il fait de l'inutile. Effectivement, faire de l'inutile, c'est à la fois être un artisan de comédie et en même temps être effectivement comme le représentant de l'art. Ce qui veut dire que du même coup, sa confrontation avec Madame Bovary n'existe pas.
Le propre des grandes œuvres est de faire rêver. Là, on arrête cette séance là-dessus. Ben, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h. On va reparler de la question de l'art avec Déborah Bowles qui va nous parler du personnage de Pellerin dans le brouillon de l'éducation sentimentale et une table ronde qui réunira Françoise Gaillard, Jacques Ness, Pierre-Marc de Biasi, moi-même. Sur l'art dans l'éducation sociale. Donc à tout à l'heure.
Merci. Et merci à vous.
Merci.
Oui, dernier appel pour les devoirs. Ils doivent récupérer leurs travaux. Ils sont en disposition.
C'est un peu difficile pour vous parler de la vie.
septembre, le 5 septembre. C'est le 1er septembre. Moi, ça ne passe pas bien. Il faut voir pour l'année prochaine. Peut-être, mais tout ça est encore très vague. Si on peut rester en contact, vous faites des propositions.
Thank you.